Exponentielle i pi plus 1 égale 0, c'est une des formules les plus extraordinaires de toutes les mathématiques. Et elle a été proposée pour la première fois par un célèbre mathématicien suisse, Leonhard Euler, qui vivait au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, on la considère comme une des formules les plus fondamentales, les plus extraordinaires de toutes. Elle a comme caractéristique d'être extrêmement courte et de montrer 5 des constantes mathématiques les plus importantes. On a évidemment le 0 et le 1, qui sont en un sens les constantes fondamentales pour faire de l'arithmétique. On a le nombre pi, qui est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, et qui est en un sens une constante fondamentale de la géométrie, c'est le fameux 3,14. On a le nombre i, qui est la base des imaginaires purs, à partir de laquelle on construit l'ensemble des nombres complexes. Et on s'est montré que, en un sens, l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble le plus naturel, le plus élégant, le plus complet, on dirait, pour faire de l'algèbre. Donc, en ce sens, i, la base des imaginaires purs, c'est la constante fondamentale de l'algèbre. Et enfin, on a e, à peu près 2,7, la base des logarithmes népériens, e qui définit la fonction exponentielle qui passe pour la plus importante des fonctions de l'analyse. Donc avec 5 termes, e, i, pi, 1 et 0, on a 5 constantes fondamentales. Et ça va même un peu plus loin parce qu'on a aussi 3 opérations qui sont les opérations les plus importantes des mathématiques. L'addition, la multiplication et l'exponentiation. On voit mal comment on pourrait faire mieux de façon aussi courte, de façon si condensée. On a un extraordinaire condensé de mathématiques avec cette formule qui est due à Euler. La difficulté pour comprendre cette expression, elle tient au terme exponentiel i pi, qu'on a du mal à saisir parce que ça n'est pas un terme très intuitif. Et pour atteindre une compréhension de ce que c'est, on va devoir franchir un certain nombre d'étapes. La première étape consiste à définir la notion de puissance, la notion classique. Et classiquement, une puissance, ça se définit à partir de la géométrie. Si je prends un segment de longueur a, eh bien on peut définir a au carré, ou a fois a, comme étant l'aire du carré de côté a. Et de la même façon, a au cube, c'est a fois a, c'est le volume d'un cube de côté a. En voyant les choses de façon géométrique comme ça, on est vite arrêté parce que si on veut faire a fois a fois a fois a, on n'est pas capable de donner dans notre espace ordinaire une figure à quoi ça correspondrait. Parce qu'il faudrait être dans une quatrième dimension. Pourtant, on voit bien que a fois a fois a fois a, ça fait sens. Et plus généralement, on a le droit de multiplier a plusieurs fois par lui-même et de définir ainsi ben, a puissance 1, a puissance 2, a puissance 3, a puissance 4, selon le nombre de facteurs a qu'on a dans l'expression. Passer ainsi de a au carré à a fois a, ou à, plus exactement de a au carré à a puissance 2, c'est un glissement, pas seulement dans la formulation, mais aussi dans le point de vue. On passe d'un point de vue géométrique à un point de vue algébrique. A au carré, a au cube, on ne peut pas aller plus loin. En revanche, a puissance 2, a puissance 3, on peut facilement aller plus loin et définir les puissances de a par n'importe quel nombre entier positif. Avec ce nouveau point de vue, on a une formule qui est très importante, à la fois très simple et très importante, qui est que a puissance, par exemple, 3 fois a puissance 4, pour calculer a puissance 3 fois a puissance 4, on peut faire a puissance 3 plus 4. Les puissances s'ajoutent quand on multiplie des puissances de a, les exposants s'ajoutent. Ça n'est pas difficile de voir pourquoi c'est vrai. A puissance 3, c'est une liste de 3 qu'on multiplie ensemble. A puissance 4, même chose avec 4a. Le fait de multiplier les deux listes nous fait bien une seule liste qui a 7 facteurs a. Et donc, on a bien l'égalité annoncée. Et ce raisonnement-là fonctionne évidemment pour n'importe quels entiers, m et n. Et on obtient la formule classique a puissance m fois a puissance n égale a puissance m plus n. Et ce point de vue, cette formule nous offre un nouveau point de vue, si on veut, et qui va nous permettre de définir quelque chose comme a puissance 1,5. Si a puissance 1,5, on essaye de l'envisager par le point de vue algébrique qu'on a déjà développé, on voit qu'on est coincé parce qu'il faudrait couper un a en deux, en quelque sorte. Donc on est obligé d'étendre à nouveau notre perspective, de voir les choses de façon plus générale, exactement comme quand on est passé du point de vue géométrique au point de vue algébrique. Et la façon de faire courante et légitime, disons, celle qu'on fait en mathématiques, consiste à imaginer que la formule du dessus est valable même quand m et n ne sont pas entiers. Par exemple, quand m et n valent tous les deux 1,5, ça donne a puissance 1,5 fois a puissance 1,5 égale a puissance 1,5 plus 1,5, c'est-à-dire a puissance 1, c'est-à-dire a. Et donc, a puissance 1,5, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne a. Autrement dit, a puissance 1,5, c'est la racine carrée de a. On peut travailler comme ça pour définir d'autres puissances non entières de a, a puissance 1 tiers, a puissance 3 quarts, a puissance tout ce qu'on veut. Il faut démontrer évidemment que tout ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'incohérences algébriques qui apparaissent au bout d'un moment, des incompatibilités des absurdités. Il se trouve que ça fonctionne bien, qu'avec un petit peu de travail supplémentaire, on arrive à élever à n'importe quelle puissance réelle. Le problème, c'est que dans exponentielle IPI, E puissance IPI, on a affaire à une puissance complexe. Et on est donc amené à se poser la question, comment donner du sens à une expression du genre 2 puissance i. Pour définir une puissance complexe, on va introduire une nouvelle formule qui est plus difficile que a puissance m fois a puissance n égale a puissance m plus n, et qui est la formule suivante. Exponentielle de x, donc où e c'est le nombre 2,7, etc., c'est la limite de 1 plus x sur n à la puissance n. Une formule un petit peu compliquée qu'on peut démontrer ou dont au moins on peut se persuader qu'elle est vraie en faisant des dessins, c'est-à-dire on peut dessiner d'une part exponentielle x et d'autre part les fonctions 1 plus x sur n puissance n et constater que quand n est assez grand, les deux courbes sont voisines. On va devoir admettre cette formule qui est elle aussi un pilier de l'analyse parce qu'elle fait le lien entre l'exponentielle et l'algèbre. L'algèbre, c'est le royaume des quatre opérations, c'est l'addition, la division, la multiplication, l'élévation à une puissance entière. Comme 1 plus x sur n à la puissance n, c'est une expression algébrique, elle utilise les quatre opérations. Et puis il y a la limite. Et la limite, c'est le royaume de l'analyse. Qu'est-ce qui se passe quand un paramètre s'approche de telle ou telle valeur? En l'occurrence, quand le paramètre n devient de plus en plus grand. Le fait de pouvoir exprimer exponentielle de x comme la limite d'une expression algébrique est en quelque sorte un pont entre ces deux mondes, entre le monde de l'algèbre et le monde de l'analyse, entre le monde des quatre opérations et le monde des limites. Et ce que cette formule a d'intéressant, c'est qu'elle offre d'emblée un point de vue plus général pour définir des puissances, au moins E puissance quelque chose. Parce que 1 plus x divisé par n à la puissance n, on n'est pas limité à prendre x réel pour que ça ait du sens. On peut tout simplement remplacer x par i pi. En trichant, comme on a triché tout à l'heure pour définir a puissance 1,5, mais en trichant d'une façon qui permet effectivement de généraliser la notion d'exponentiation à des valeurs complexes. Donc, au fur et à mesure de nos généralisations successives, bien sûr, on s'est éloigné de plus en plus d'une représentation concrète. On est bien loin du carré ou du cube, on est dans quelque chose de plus théorique, mais aussi donc qui permet d'atteindre des choses qu'on n'atteindrait pas sinon. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de montrer qu'avec cette formule, eh bien effectivement, e puissance ipi est égal à moins 1, c'est-à-dire e puissance ipi plus 1 égale 0, c'est cette forme qu'on l'a donnée tout à l'heure. Et donc, si on note u, l'expression 1 plus ipi sur n, il va falloir calculer u puissance n, regardez ce qui se passe quand n tend vers l'infini, étant entendu que u dépend lui-même de n. Alors pour ça, on va représenter u sur le plan complexe, donc il se trouve sur la droite sur la droite verticale d'équation x égale 1, et si n est grand, eh bien u est relativement proche de la valeur 1, parce que i pi sur n est petit, la partie imaginaire est petite, et on va approcher u par un autre nombre complexe, pas 1 quand même si u est proche de 1 à mesure que n grandit, mais par le complexe v qui s'obtient en rabattant le segment 1u, rose sur le dessin, sur le cercle unité. Donc v, c'est le nombre complexe de module 1 parce qu'il est sur le cercle unité, et tel que l'arc de cercle de 1 à v est de la même longueur que le segment 1U, qui est lui-même de longueur pi sur n. Et donc si l'arc de cercle entre 1 et V est de longueur pi sur n, alors l'angle, c'est-à-dire l'argument de V, est lui-même égal à pi sur n par définition. Et ça, c'est intéressant parce qu'il s'agit de calculer U à la puissance n. Si on convient que U et V sont proches, on peut espérer que U puissance n et V puissance n restent à peu près proches l'un de l'autre. Là, il y a une vraie difficulté théorique pour le démontrer, mais au moins expérimentalement, on peut essayer. Et eh bien, on constate par exemple pour n égale 15, donc U égale 1 plus I pi sur 15, que V est tout très proche de U sur le cercle unité rouge. Si on calcule les puissances successives de U et de V, donc U au carré et V au carré, U au cube et V au cube, et ainsi de suite, les deux s'éloignent, ce qui est un petit peu inévitable, mais pas trop. Et à la fin, quand on a U puissance 15, qui est la valeur qui nous intéresse, eh bien, on est presque revenu sur l'axe des réels, donc l'argument de U puissance 15 est effectivement pas très loin de pi. Le module de U puissance 15 n'est pas vraiment égal à 1, il est encore un peu loin, mais pas si loin que ça de V puissance 15, qui lui est exactement égal à moins 1. Si on essaye avec une valeur plus grande, de n, donc U égale 1 plus i pi sur 50, on constate que là, les puissances successives de U et de V restent très proches l'une de l'autre, et qu'à la fin, effectivement, U puissance 50 est très proche de moins 1. On pourrait démontrer rigoureusement que, à mesure que n devient grand, 1 plus i pi sur n, effectivement, montre ce comportement, et les modules, eux aussi, s'approchent de plus en plus de ce qu'il faut, c'est-à-dire de 1. Vous êtes peut-être un petit peu déçus de constater que même en essayant d'expliquer cette formule, on est resté à des choses assez théoriques, et en plus, on est obligé d'admettre un certain nombre de choses. On n'a pas démontré que effectivement U puissance n, que 1 plus i pi divisé par n à la puissance n s'approche de moins 1. Il faut bien comprendre que exponentielle i pi plus 1 égale 0, c'est un pilier des mathématiques. C'est vraiment le point de rencontre majeur de tout un tas de domaines, de l'algèbre, donc de la géométrie et de l'analyse. Et donc il est un petit peu logique que ça ne soit pas gratuit, que ça demande un certain effort. Et si vous êtes un petit peu, si vous sentez que vous n'avez pas tout saisi, j'espère que ça vous donnera, non pas que ça ne vous découragera pas, mais qu'en tout cas ça vous donnera au contraire l'envie d'aller plus loin, de creuser cette formule qui est effectivement l'une des plus belles des mathématiques.